Cette semaine, j'étais à Stockholm, en Suède, et le soir, à l'hôtel, je regardais un peu la télé, et comme mon suédois est relativement rudimentaire, j'ai surtout zappé sur des chaînes d'information anglophones. Et il y avait le scoop du jour, à savoir que l'ancienne épouse d'un des candidats à l'investiture républicaine au présidentiel aux États-Unis a déclaré devant les caméras, et on l'a vu à longueur de soirée, que son ancien mari lui aurait proposé un mariage ouvert. Lui, elle et encore sa maîtresse à lui. Je ne sais pas si c'est vrai, et peu m'importe au fond, parce que cette parole du mariage ouvert a fait tilt par rapport au texte que j'étais en train de préparer déjà et que je vous propose d'étudier ce matin ensemble, à savoir le tout début du chapitre 5 du livre du Deutéronome. Peut-être pourrions-nous nous lever pendant la lecture de ce texte en signe de respect pour la parole de Dieu. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les prescriptions et les ordonnances que moi je dirai à vos oreilles en ce jour, pour les apprendre et les garder, afin de les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous qui vivons aujourd'hui. Le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu. Moi, je me suis tenu entre le Seigneur et vous en ce temps pour vous communiquer la parole du Seigneur, car vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il a dit, « Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. » Vous pouvez vous asseoir. Depuis quelque temps déjà, nous étudions ensemble le livre du Deutéronome. Et vous le savez maintenant, je crois que le Deutéronome, c'est la collection des discours d'adieu de Moïse à son peuple. Moïse s'apprête à mourir. Le peuple va bientôt entrer en terre de Canaan. Et Moïse a un certain nombre de choses à leur dire avant que cela se passe. Nous avons vu que le premier discours de Moïse, qui est contenu dans les quatre premiers chapitres, est un discours, une espèce de survol historique de tout ce qu'ils ont vécu dans le désert, ou du moins des éléments marquants, des jours marquants de cette traversée de 40 ans. Et ce discours se termine, nous l'avons vu, sur un plaidoyer vibrant contre l'idolâtrie. Et nous commençons maintenant le deuxième discours, qui est un discours fleuve, et ce discours est d'une toute autre nature, c'est une relecture de la loi. Deutéronome, ça veut dire deuxième loi, mais ce n'est pas précisément une deuxième loi, mais c'est une relecture de la loi déjà donnée 40 ans plus tôt au Sinaï, ou comme il est dit dans notre texte, à l'Horeb, c'est la même montagne. Donc, ce n'est pas une nouvelle loi, mais Moïse explique de nouveau cette loi. Il met le focus sur certains points de cette loi. Il amplifie certains d'autres points. Donc, c'est une relecture enrichie, pourrait-on dire, de la loi. Et cette relecture commence par un des textes fondateurs, un des textes, je crois, aussi les plus connus de l'Écriture, à savoir ce que nous connaissons sous le titre des 10 commandements. Et aujourd'hui, je vous propose donc d'étudier le premier de ces commandements que nous venons de lire. Mais avant d'aborder ce commandement, je voudrais juste faire une remarque sur les 10 commandements dans leur ensemble. Parce qu'on entend parfois dire que finalement, ces commandements sont très négatifs. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Est-ce que ce n'est pas l'expression d'un dieu rabat-joie qui dit, voilà, tu ne feras pas ci, et ça aussi, tu n'as pas le droit, et ça encore. Un dieu qui, en quelque sorte, nous ficelle avec des interdits. Et depuis 68, on le sait, il est interdit d'interdire, donc ça passe relativement mal. Je crois que c'est une conception totalement fausse, en fait, de la manière dont opèrent ces commandements, parce que quand on y réfléchit un petit peu, ces commandements sont en effet très libérateurs. Parce que, en quelque sorte, Dieu dit, voilà, vous pouvez tout faire, sauf ça, ça, ça et ça. Et quand vous réfléchissez, c'est beaucoup plus libéral que de dire, vous devez faire ça, 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 ça et ça encore. Hein? Non, le champ est totalement ouvert, avec quelques interdits ici et là. Et ça, vous pouvez difficilement faire quelque chose de plus libre qu'un système comme ça. Et Dieu fonctionne comme ça, dès le jardin d'Éden. Hein? Si vous relisez ce texte, vous verrez que Dieu dit, vous pouvez manger de tout, sauf de cet arbre-là. Hein? Mais faites votre choix, vous êtes libre. Hein? Mais ça, je vous l'interdis. Hein? Et ça, c'est une constante chez notre Dieu, il fonctionne comme ça. Il nous donne cette liberté et en étudiant ces 10 commandements, vous allez voir, ce sont des voies de liberté, en fait, plutôt qu'un système qui nous contraint. Qui dit liberté dit responsabilité, bien sûr. Et nous sommes parfois mal à l'aise avec cette liberté, même en tant que chrétien. Et j'en veux pour preuve, si vous allez dans une librairie chrétienne, vous allez trouver pléthore d'ouvrages sur comment découvrir la volonté de Dieu pour toutes les choses de la vie. Et en quelque sorte, on supporte pas d'être libre d'avoir le choix des choses. On veut toujours savoir exactement ce que Dieu a prévu pour moi que je dois faire à tel ou tel égard. Mais je crois que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La volonté de Dieu, vous la connaissez, vous l'avez là. C'est ça la volonté de Dieu. Et si votre vie se conforme à ça, c'est bon. Pour le reste, vous avez le choix. Faites de bons choix. Faites des choix avec sagesse. Demandez à Dieu de la sagesse pour les faire. Mais n'essayez pas de faire de la divination chrétienne pour savoir voilà, quel métier exactement a Dieu prévu pour moi ou qui dois-je épouser exactement. Vous avez le choix, mais faites de bons choix en respectant ce que vous connaissez de la volonté de Dieu telle qu'il a délivré. Pas besoin de lire dans le Marc Café. Alors, maintenant, je voudrais aller un peu plus dans le détail et regarder de plus près ces 10 commandements. Mais avant d'étudier le premier commandement, je voudrais rester un peu sur ce que j'appelle le préambule, c'est-à-dire le verset 6. Vous savez, les Juifs n'appellent pas les 10 commandements 10 commandements. Ils disent c'est les 10 paroles. Et ils ont une autre façon de les compter que nous habituellement. Et pour eux, la première parole, c'est en fait le verset 6, c'est-à-dire « Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. » Ça, ce n'est pas vraiment un commandement encore. Hein? Mais c'est une introduction et je crois qu'elle est extrêmement importante pour bien comprendre les 10 commandements. Si vous sautez cette phrase-là, vous risquez fort de vous tromper sur la nature des commandements. Tout se joue déjà ici. Pourquoi je dis ça? Première observation, « Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 10 commandements qui suivent s'inscrivent dans une alliance. Il se passe quelque chose entre Dieu et son peuple et c'est dans le cadre de l'alliance Dieu-peuple que ça se joue. C'est-à-dire que les 10 commandements qui vont suivre, ce n'est pas un texte à portée universelle, comme on pourrait parfois le croire. C'est vrai qu'il y a là-dedans des choses qui ont une portée universelle. C'est incontestable et toutes les cultures l'ont reconnu. Mais foncièrement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un texte à portée universelle, c'est un texte pour une alliance. Donc ça n'a pas de sens de venir avec les 10 commandements et de les imposer à la société. Non, c'est un texte qui est librement adopté par ceux qui veulent s'inscrire dans l'alliance avec Dieu. Et je crois que c'est important de ne pas imposer des choses à la société qui ne la concerne pas en premier lieu. C'est un texte pour le peuple de l'Alliance. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'éthique, ou la morale si vous préférez, que constitue le 10 commandements, cette éthique n'est pas une éthique fondamentale. c'est une éthique de réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, en fait, ce qui fonde les 10 commandements, c'est ce que Dieu a fait. Et ce que nous sommes invités à faire n'est pas quelque chose qui constitue une sorte de fondement pour notre relation avec Dieu, mais c'est la réponse que nous pouvons donner à l'action que Dieu a déjà accomplie. Quand Dieu parle à Israël, il les a déjà fait sortir d'Égypte. Vous savez, on aurait pu imaginer que Dieu donne les 10 commandements à Moïse lorsqu'il le rencontre dans le désert, face à face, et qu'il dise, voilà, tu vas maintenant en Égypte, tu vas voir les Israélites, et tu leur dis, voilà mes commandements, et si vous les mettez en pratique, alors je vous sortirai d'Égypte. Mais ce n'est pas ça. Au moment où il leur donne ces commandements, il les a déjà libérés, il les a déjà sauvés d'Égypte. Hein? Il a déjà agi. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental que vous allez voir, traverse l'Écriture, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, hein? Lorsque Dieu nous demande de vivre d'une certaine manière, ce n'est pas pour nous acheter sa bienveillance ou son action. Non, au contraire, c'est en réponse à ce qu'il a déjà fait. Et le Christ a pu dire à la croix, tout est accompli, tout est déjà fait. Et qui va dire que le Christ a menti à la croix, hein? Tout est accompli, et ce qui vient après, ce que nous pouvons faire après, en respectant les commandements qu'il nous a laissés, ce n'est pas pour nous acheter le salut, et la réforme l'a redécouvert, mais c'était inscrit dès les gènes, je dirais, de la relation entre Dieu et son peuple. Hein? Ce que nous pouvons faire, c'est en remerciement, en fait, de ce qu'il a fait pour nous. Et c'était déjà comme ça pour le peuple d'Israël. Le salut par grâce, ce n'est pas une nouvelle invention. C'est déjà là, au début, à l'introduction des 10 commandements. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Dieu se présente ici comme le libérateur. Et ça, c'est foncièrement important pour comprendre les 10 commandements. Celui qui nous donne les 10 commandements, c'est celui qui nous a libérés et dont le but est de nous rendre libres. Et vous allez comprendre les 10 commandements quand vous comprendrez que ce sont des voies de liberté. Hein, et si elles sont parfois négatives, ce sont des voies pour nous éviter de nous soumettre à des servitudes qui n'ont pas lieu d'être dans la vie d'un membre du peuple de Dieu. Mais maintenant, il est grand temps que je me penche un petit peu sur le premier commandement, à savoir le verset 7 dans notre texte. « Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. » Chaque mot compte ici. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Parfois, vous allez entendre des gens commenter les commandements en disant « Oh oui, mais ça, c'est pas vraiment des interdits. » Ce sont des affirmations de ce qui sera un jour, quand vous fréquenterez longtemps Dieu, vous allez vous transformer de mieux en mieux, et puis un jour, hein, vous ne ferez plus ceci ou cela. C'est un futur, là. Hein, c'est un inaccompli, ce n'est pas un impératif. Et c'est vrai. Ici, vous avez une traduction extrêmement littérale, et c'est vrai que dans la langue du Décalogue, en hébreu, c'est une forme à l'inaccompli. Ce n'est pas un impératif. L'hébreu connaît des impératifs, mais ce n'en est pas un. On pourrait dire, oui, ça c'est peut-être significatif. Or, il n'en est rien, en fait. Il n'en est rien parce qu'en hébreu, vous ne pouvez pas utiliser un impératif au négatif. Ça ne se fait pas. La langue ne le veut pas. C'est comme ça. Et donc, pour exprimer l'idée d'un impératif au négatif, comme on fait en français, hein, l'hébreu utilise cette forme-là de l'inaccompli qui dit « tout ne fera pas ça ». Mais le sens, c'est précisément « tu ne dois pas faire hein, ». Qu'on ne s'y trompe pas. On touche ici plutôt à la particularité d'une langue plutôt qu'à quelque chose qui est foncièrement important. Mais l'idée ici est bien celle d'un commandement pour le peuple de l'Alliance. « Tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant ma face ». Deuxième point, il n'y aura pas pour toi. Ça aussi, c'est important. Parce que nous ne sommes pas ici dans le domaine de déclaration universelle du genre « il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». On n'est pas ici dans la théologie dogmatique sur le monothéisme, hein, qu'il n'existe qu'un Dieu. peu importe s'il y a d'autres dieux ou pas. Ce n'est pas ici notre souci. Il y a d'autres textes dans l'Écriture qui s'en préoccupent. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Le texte ne veut pas dire « il n'y a qu'un seul Dieu ». Il dit « il n'y aura pour toi qu'un seul Dieu ». Et là, je réinsiste sur le fait que nous sommes dans un discours d'alliance. Et si vous voulez être en alliance avec Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'autre Dieu à côté de lui, sous peine de briser cette alliance. Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu. Alors, le mot ici, c'est un mot hébreu que vous connaissez peut-être, hein, c'est le mot Elohim. Et Elohim est un mot qui couvre un champ sémantique relativement vaste. Ça peut désigner pas mal de choses. Mais ici, je crois que le sens est assez clair parce que le mot apparaît déjà dans le préambule, qui dit « Moi, je suis... » Donc là, vous avez le nom de Dieu qu'on ne sait pas prononcer. Hein, et les Juifs disent « Adonai », donc « Seigneur », donc je fais comme eux. Je dis « Moi, je suis le Seigneur, ton Elohim. Hein, » et donc, l'interdit porte sur quelque chose qui correspondrait à une réalité semblable à ce que Dieu est pour Israël. Hein? Donc, la traduction « il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu » est parfaitement légitime et saine, me semble-t-il. « Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Hein? » Là encore, c'est un hébraïsme. Hein? Et l'idée ici, c'est de, on pourrait dire, « il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu par-dessus moi, ou vous pouvez peut-être aussi traduire « à côté de moi ». Il y a un texte très intéressant dans la Genèse qui nous aide à bien comprendre cela. C'est un texte où Laban s'adresse à Jacob, qui a épousé, comme vous le savez peut-être, les deux filles de Laban. Et au moment où ils se séparent, Laban va dire à Jacob, « Mais gare à toi, si tu épouses d'autres femmes, à côté ou par-dessus mes deux filles. » Or, dans l'Écriture, souvent, la relation entre Dieu et son peuple est assimilée à une relation conjugale, où Dieu joue le rôle, si j'ose dire, du mari, et le peuple celui de l'épouse. Et l'idolâtrie est souvent comparée à l'adultère. Donc, je crois qu'il est légitime, et je le ferai encore par la suite, d'utiliser l'analogie conjugale pour la relation entre Dieu et son peuple. Et donc, ici, l'idée est bien d'avoir un Dieu qui serait à côté de Dieu, qui s'introduit en quelque sorte dans cette alliance. Le mariage entre Dieu et son peuple deviendrait en quelque sorte un ménage à trois ou à plusieurs, un mariage ouvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cela n'est pas possible pour le peuple de l'alliance. Si Israël veut entrer et rester en alliance avec son Dieu, il faudrait que cette relation reste exclusive. Il ne doit pas y avoir d'autre Dieu qui perturbe en quelque sorte cette relation conjugale entre Dieu et le peuple de son alliance. Bien. Dieu veut une loyauté absolue de son peuple à cet égard. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est relativement facile de comprendre ce que ça voulait dire dans le contexte de l'Israël ancienne. Israël allait entrer en terre de Canaan, ils allaient s'installer dans ce pays comme paysans, comme éleveurs, avec une population qui est là, qui a pléthore de divinités. Et notamment des divinités de fertilité, les Baalim et autres. Et évidemment, la tentation serait grande pour ce peuple d'Israël d'adopter ces divinités. S'il y a une mauvaise récolte, certes, on pourrait en parler au Dieu de leur alliance, mais pourquoi pas aussi faire quelque chose avec une autre divinité qui pourrait peut-être aussi donner un coup de pouce, voyez-vous, hein? Et nous savons que ça, c'est exactement ce qui s'est produit et qui a valu à Israël l'exil à terme. Donc le risque est clairement identifié, que Israël, peuple de l'Alliance, assimile d'autres divinités. hein, et trompe en quelque sorte son Dieu avec ses divinités, et l'interdit, je pense, il coule de source. Pour nous, c'est un peu différent. Je veux dire, je parle ici, bien sûr, dans le contexte qui est le nôtre, d'Occident. Hein. Je ne pourrais probablement pas dire la même chose si je prêchais dans une église en Afrique, dans un coin qui est animiste. Hein. Je ne pourrais probablement pas dire la même chose si je prêchais au Japon, dans un contexte où le shintoïsme est assez omniprésent dans la vie de tous les jours. Hein. Mais ici, chez nous, le risque du polythéisme est relativement circonscrit, je dirais. Hein. Notre tendance serait plutôt du zéro Dieu, plutôt que d'un grand nombre de divinités. On pourrait se poser la question, est-ce que chez nous, le commandement a encore une grande pertinence? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être l'oublier? Hein? Soyons pas trop rapides à le mettre à la poubelle, parce que je crois que ce commandement a aussi quelque chose à nous dire. Et pour vous l'illustrer, je reviens vers cette analogie conjugale que je vous ai donnée tout à l'heure, parce qu'il me semble qu'elle nous permet de voir de quoi il s'agit. Il se trouve que je suis marié avec Karine, que plusieurs d'entre vous connaissent. J'ai fait alliance, pourrait-on dire, c'est un grand mot au sens public, hein. J'ai fait alliance avec quelqu'un, j'ai fait un contrat avec Karine en l'épousant. Ce contrat me confère un certain nombre de droits, mais aussi m'impose un certain nombre de devoirs. Ce contrat, ce mariage, n'a pas pour effet que je dois passer toute ma vie la main dans la main avec mon épouse, les yeux dans les yeux, hein, dans notre bulle. Hein? Bien sûr que non. Au départ, souvent, c'est un peu comme ça. Hein? Mais ça se calme après. Hein? Et bien sûr, je peux. J'ai contact avec d'autres femmes que la mienne. Je peux fréquenter d'autres femmes dans mon travail. Je peux avoir des amis IES hein, dans ma vie privée. Il n'y a aucun souci. Mais il est clair que le degré d'intimité que je peux avoir avec d'autres femmes doit rester limité. Est très nettement limité par rapport à ce que je peux vivre avec ma femme. Et si d'autres femmes prennent trop d'importance dans ma vie par rapport à la mienne, c'est que je suis sur une voie très dangereuse. Et il est difficile de dire exactement où se situe la limite. Ça dépend sans doute aussi un petit peu des personnes. Mais si vous lisez le Sermon sur la montagne, vous voyez que la limite est quand même relativement basse. Ce qui veut dire que même si je regarde une autre femme avec désir, j'ai déjà franchi le Rubicon. Avec Dieu, c'est un peu comme ça. En devenant chrétien, en entrant dans une alliance avec Dieu, ça ne vous mène pas à une vie où vous psalmodiez tout le temps. Hein? Vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie. Et tout n'aura pas forcément une connotation religieuse. Vous pouvez lire des livres qui sont autres que l'écriture. Vous pouvez apprendre des langues autres que l'hébreu et le grec biblique. Hein? Vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie. Hein? Mais il ne doit pas y avoir des choses dans votre vie qui prennent trop d'importance, vous disant une importance telle que elle commence à être rival de Dieu dans notre vie. Hein? S'il y a quelque chose qui prenne une telle importance, c'est qu'il y a danger. J'ai lu il y a quelques années déjà un reportage sur une jeune femme, mère de famille, qui était une mordue d'un sport que je ne connaissais même pas, à savoir le twirling bâton. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'ai découvert ça à l'occasion. Donc, c'est une espèce de gymnastique sportive, quelque chose un peu entre la gym et la danse, avec un outil particulier, qui est un bâton qu'on lance dans l'air, qu'on rattrape. Enfin, bref, c'est assez difficile, je pense. Mais cette femme-là, elle a été complètement mordue par ce sport, qui est un sport olympique d'ailleurs. Et on racontait un peu cette vie de cette femme, et je peux vous dire que sa vie était complètement twirling bâton. Hein. C'est-à-dire, elle y pensait tout le temps. Tous les soirs en semaine, elle était à l'entraînement. Tous ses enfants embrigadés en compétition twirling bâton, les garçons et les filles. Hein. Le week-end, bien entendu, compétition. Hein. Et le soir, quand il n'y a pas de compétition, il fallait confectionner les costumes et machin, un truc. Hein. Et son mari aussi était embrigadé allaitant. Il était le chauffeur attitré. Enfin bref, la famille twirling bâton. Et tout ça, c'est pas méchant, au contraire. Mais et cette femme n'était pas chrétienne, à ce que je sache, donc ça pose pas de problème. Mais si elle avait été chrétienne, j'aurais dit attention, hein, une vie au service du twirling bâton n'est probablement pas compatible avec l'alliance avec Dieu. C'est pas pour dire qu'on n'a pas le droit de faire ce sport, bien entendu. Mais quand ça devient omniprésent, si votre vie est orientée par ça, du matin au soir, par quelque chose d'autre que Dieu, je crois que vous êtes en train d'enfreindre ce premier commandement. Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Alors, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Et là, mon imagination ne suffirait pas pour vous dire ce que ça peut être pour vous. Ça peut effectivement être un loisir qui devient omniprésent. Mais c'est peut-être plutôt rare, ce genre de situation. Un peu extrême, un peu grotesque même. Mais ça peut être le travail. Hein? Si du matin au soir, vous pensez que travail, 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 le week-end, travail, 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 le soir, travail, travail, danger. Danger. Ça peut être une relation. Je crois que l'exemple le plus dangereux, peut-être, ça serait les possessions de la vie, l'argent. Je dis ça parce que c'est l'exemple que Jésus a choisi plus particulièrement. Vous savez, il y a un texte, de temps en temps, Jésus parle des 10 commandements. Pas très souvent, mais évidemment dans le Sermon sur la montagne, mais il y a quelques autres textes. Et un texte que je trouve très significatif, c'est le texte du jeune homme riche, je crois, on dit. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Il y a un jeune homme, apparemment riche, on apprendra, qui vient voir Jésus et dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus donne une réponse assez étonnante. Il dit, eh ben, c'est facile, tu gardes les commandements. Hein? Et il lui cite le 5e, 6e, 7e, 8e, 9e commandement. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est plutôt les commandements de la deuxième partie du décalogue qui parle d'autrui. Hein. Il ne cite pas les commandements sur Dieu. Et le jeune homme riche est content, il dit « Ah ben ça, c'est super, j'ai toujours fait ça. Hein. » Et Jésus dit « Ah ben, super, alors je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas vendre toutes tes possessions, tu les donnes aux pauvres et après tu reviens me voir. » Et là, c'est fini. C'est fini parce que le jeune homme, ça, il ne peut pas. Il aime trop ce qu'il possède. Hein? Et ça, c'est trop lui demander de vendre tout ce qu'il a. Et donc, il s'en va. C'est dramatique, ce texte. Et voyez-vous, ce que Jésus a fait là, c'est qu'il a mis le doigt sur ce qui était vraiment capital pour ce jeune homme. Et en quelque sorte, je crois, sans le dire, il l'a ramené vers le premier commandement. Hein? À savoir, attention, il y a dans ta vie quelque chose qui domine. Tu as bien eu l'occasion de pratiquer tous les commandements, mais celui-là, peut-être, tu n'y es pas. Et ailleurs, encore, Jésus dit très clairement, et là, nous sommes vraiment sur le terrain du premier commandement, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, hein, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Donc là, nous sommes de nouveau au niveau de l'argent, des possessions personnelles, ça semble être peut-être la chose la plus dangereuse de tout ce que je vous ai cité, comme idole qui peut s'ériger dans notre vie. Mais je crois que la liste que je vous ai donnée est loin d'être limitative. Ça peut être un loisir, ça peut être votre travail, ça peut être l'argent, et ça peut être, je crois, presque tout ce que vous pouvez imaginer qui est important pour vous. Et j'ose presque pas le dire, mais je crois que ça peut même être l'Église. Je crois que tout qui peut être important pour nous peut devenir trop important et prendre trop de place au point de devenir, en quelque sorte, un autre Dieu devant ma face. Et vous ? Quelle est votre idole à vous ? Alors, n'étudiez pas trop vite. Non, j'en ai pas. C'est dangereux. Qu'est-ce qui vous fait courir dans la vie ? Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Il faudrait que vous la posiez. Qu'est-ce qui me fait courir ? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important ? À quoi ma vie sert-elle ? Ou puis-je dire, qui sert-elle ? Voilà des questions que je crois qu'il faut se poser. Et si vous vous posez cette question et vous ne tournez pas autour du pot, peut-être vous allez voir apparaître vos idoles. C'est possible. Peut-être vous n'en avez pas, tant mieux. Mais peut-être il y a des choses dans votre vie qui sont capitales, déterminantes. Et votre vie est au service de ces choses-là. Posez-vous la question et vous allez peut-être avoir des surprises. Mais si vous en trouvez, il faudra s'attaquer à ça. Il faudra les déloger de leur place. Ça ne veut pas dire que ces choses-là doivent disparaître complètement, mais doivent être ramenées à une mesure plus raisonnable. Elles ne doivent pas être trop présentes dans la vie. Elles ne doivent pas faire de l'ombre à ce qui doit être pour nous, hommes et femmes de l'Alliance, au centre de notre existence, à savoir le service de notre Dieu et lui seul. Notre Dieu n'est pas prêt, pour utiliser l'expression qui m'a servi d'introduction, notre Dieu n'est pas prêt à un mariage ouvert. Si vous voulez être dans son alliance, ça sera exclusivement avec lui ou pas du tout. Voilà le choix qui se pose à nous. Et je vous invite à le choisir, lui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu qui libère. Et nous te louons parce que ta loi est bonne et saine et libératrice. Et nous voulons être dans ton alliance. Nous voulons être en alliance avec toi. Nous te demandons de nous montrer s'il y a des idoles dans nos vies, de nous les montrer s'il y en a, et de nous aider à nous en débarrasser sans tarder. Amen.